Artista Web
Radio. Mardi 12 septembre, 18h, 20h, Transistor fait sa rentrée.
Rebonsoir à toutes et à tous, il est 19h20 sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce mardi 12 septembre. Ce soir encore, notre équipe est à pied d'œuvre et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixé, égalité, monté et bien sûr amplifié. Comme d'habitude, deux parties pour notre émission, les 20 premières minutes seront consacrées à la politique et à l'actualité, les 20 suivantes à l'actualité culturelle avec entre autres le journal de la culture d'Eva et Clémence. Mais avant de commencer, je vous rappelle que nous recrutons car nous avons besoin d'une grande équipe et plein de membres nous ont quittés cette année. Après l'enregistrement, il y aura donc un petit temps de discussion. N'hésitez pas à venir discuter avec nous et puis surtout à la réunion de rentrée le 20 à 20h, on ne le dira jamais assez. Le 20 à 20h, notre réunion de rentrée donc de toute l'asso Transistor, vous pourrez rencontrer les producteurs des différentes émissions, puis proposer vos idées, venir en apprendre un petit peu plus sur nous. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres qui vous est présenté cette semaine par Pierre. Bonsoir à toi.
Bonsoir Rémi. Sans plus tarder, nous passons à l'actualité nationale. L'actualité de la journée est bien sûr marquée par l'ensemble des grèves et de manifestations en France à l'encontre de la réforme du Code du travail par ordonnance. De nombreuses métropoles se sont mobilisées et ont manifesté, notamment à Lyon, Nice, Marseille, Saint-Nazaire, Rennes, Bordeaux et bien sûr Paris. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire peut-être plus d'une centaine de milliers, ont choisi de manifester tandis que de nombreux réseaux de transport en commun faisaient grève, notamment les RER parisiens, les TER de la région Rhône-Alpes, je le sais bien, et l'ensemble du réseau niçois. Après un été passé à négocier avec le gouvernement, les syndicats ne sont pas d'accord sur la mobilisation. Si Philippe Martinez, président de la CGT, se dit fier de cette journée aux côtés de la FSU, Solidaire et l'UNEF, Force ouvrière a préféré attendre avant de se mobiliser et n'a pas appelé à manifester aujourd'hui. Des membres ont bien sûr toutefois rejoint les manifestations. De leur côté, la CFDT, CFTC et la CFE-CGC n'ont pas émis d'appel à manifester. Les syndicats n'étaient pas les seuls présents et les insoumis ont participé aux diverses mobilisations en France, apportant leur soutien à la CGT sur la question de la réforme du droit du travail par ordonnance. Mais la dissension est déjà présente entre les deux mouvements. Jean-Luc Mélenchon ayant appelé à manifester le 23 septembre, Philippe Martinez a annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 21 septembre, tout en certifiant qu'il n'y a pas de compétition entre lui et le leader de France Insoumise. L'ensemble des manifestations porte sur la réforme du Code du travail au programme de Macron depuis sa campagne présidentielle, qui vise à mettre en place plus de flexibilité sur le marché du travail, suivant le modèle danois. Le président Macron était attendu aujourd'hui à Saint-Martin suite au passage de l'ouragan Irma. L'île a été très sévèrement frappée la semaine dernière par l'ouragan, causant 95% de destruction et une dizaine de morts. Face au pillage ayant suivi et à l'ampleur de la catastrophe, l'opposition a lancé une polémique selon laquelle l'État aurait été défaillant dans la gestion de la crise, notamment dans l'absence d'une réaction militaire rapide. Trouvant son origine du côté de l'extrême droite, cette polémique a été lancée par une fausse comparaison avec le calme relatif de la partie nord de l'île sous souveraineté néerlandaise. En effet, la réaction du Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, a été plus rapide grâce à la proximité de deux bases navales dans les Caraïbes. D'autres politiciens français ont suivi la polémique en appelant notamment à ouvrir une commission d'enquête sur la question. Dimanche dernier, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a lancé son propre mouvement « Libre » avec un point d'exclamation. Sans pour autant se présenter à la tête du parti Les Républicains dont l'élection se fera en décembre, elle souhaite ainsi influencer l'évolution de la droite française. En effet, suite au revers de la présidentielle puis des législatives, une partie des élus se sont tournés vers l'UDI pour former au sein de l'Assemblée le groupe des Constructifs, tandis que Laurent Wauquiez, dont nous avons déjà parlé précédemment, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a affiché son intention de prendre la présidence de Les Républicains. Valérie Pécresse souhaite enrayer ainsi la dérive à droite du parti qui semble se rapprocher de positions compatibles avec le Front National. Aujourd'hui, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a annoncé que la procréation médicalement assistée ou PMA serait généralisée. Elle n'est actuellement autorisée que dans les cas d'infertilité pour les couples hétérosexuels. La réforme sera incluse dans la révision des lois sur la bioéthique qui se fera début 2018. Pour les nouvelles à l'international maintenant. Alors que hier, les Catalans célébraient leur fête nationale, le Parlement fédéral irakien a annoncé ce matin qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat du référendum d'autodétermination du Kurdistan irakien. Cette décision vise à maintenir l'unité du pays et pousser le Premier ministre, Haider al-Abadi, à entamer des négociations sérieuses avec les Kurdes. Ces derniers, autonomes de facto depuis 1991 et depuis le renversement de Saddam Hussein en 2003 des jurés, réclament maintenant l'indépendance, profitant de leur position d'acteur majeur dans la lutte contre l'organisation État islamique, ainsi que des conquêtes territoriales qu'ils ont effectuées depuis 2014, notamment la ville de Kirkuk et Mossoul. L'annonce du référendum cet été par Massoud Barzani n'a pas du tout plu à l'Iran ni à la Turquie, qui possèdent eux aussi des minorités kurdes dans leur pays, mais aussi aux États-Unis et quelques pays d'Europe, pourtant proches du quasi-État kurde. On se tourne maintenant vers le Myanmar, où selon l'ONU, près de 1000 civils ont été tués dans des mesures de répression de la part de l'armée birmane contre les Rohingyas, peuple musulman du nord-ouest du pays. Près de 370 000 Rohingyas ont passé la frontière du Bangladesh pour éviter les violences débutées en août par une attaque de rebelles contre la police birmane. Le Conseil de sécurité a été saisi par le Royaume-Uni et la Suède pour une réunion d'urgence mercredi, demain soir. La Chine, quant à elle, refuse de remettre en cause son principal partenaire économique en Asie du Sud. L'ONU s'inquiète de voir dans ces violences un nettoyage ethnique. ONU toujours, lundi, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution mettant en place une nouvelle série de sanctions à l'encontre de la Corée du Nord suite à son essai nucléaire du 2 septembre. La résolution, présentée par les États-Unis, contenait à l'origine un ensemble de restrictions fortes, telles que l'interdiction des exportations textiles de la Corée du Nord, le gel des avoirs de Kim Jong-un, une restriction plus forte encore des hydrocarbures et le renvoi aux Corées du Nord de tous les expatriés nord-coréens. Toutefois, afin d'avoir le soutien de la Chine ainsi que de la Russie, les deux seuls soutiens internationaux du régime nord-coréen, la résolution adoptée a renforcé ses clauses appelant à une recherche pacifique de solutions. Les restrictions sur les hydrocarbures ainsi que les exportations textiles ont, quant à elles, été maintenues. En Europe maintenant, Saakashvili, l'ex-président géorgien, est entré en Ukraine entouré de nombreux partisans malgré son interdiction de territoire. Il avait obtenu en 2014 la nationalité ukrainienne lors de la révolution de Maïdan et avait obtenu une place de gouverneur. Mais avec l'élection présidentielle de la même année, Saakashvili s'est retrouvé rapidement en opposition au nouveau président Porochenko. Le conflit entre les deux a culminé lorsque l'ex-géorgien a démissionné de son poste de gouverneur d'Odessa, suite à quoi Porochenko lui a retiré sa nationalité pour cause d'erreurs techniques. Rappelons que Saakashvili a déjà perdu sa nationalité géorgienne suite à son implication dans de nombreuses polémiques entourant notamment l'invasion de la Géorgie en 2008 par les forces russes. En Russie maintenant, coup sévère contre Vladimir Poutine et son parti Russie Unie, une coalition de partis libéraux d'opposition a réussi à remporter une grande partie des districts moscovites lundi, allant même jusqu'à gagner les 12 sièges du district où vote Vladimir Poutine lui-même. Outre-Manche, la première étape du Brexit légal est en marche. La Chambre des communes britannique a adopté à 326 voix contre 290 le EU Withdrawal Bill, aussi appelé Repeal Bill. Le texte passe donc à la Chambre des Lords et devra faire face à de nouvelles tentatives de modification. La loi a causé beaucoup de troubles dans le monde politique britannique et 2 jours de débats pendant lesquels pas moins de 100 parlementaires se sont exprimés. Le principe de cet acte est de remplacer le European Community Act de 1972 qui plaçait le droit communautaire au-dessus du droit national tout en validant l'intégration du Royaume-Uni à la communauté européenne. Le Repeal Bill vise à changer le droit européen en droit britannique en remplaçant la mention UE par UK dans le but d'éviter le tout trou législatif une fois le Brexit effectif. Toutefois, le problème majeur de cet acte reste la possibilité pour les ministres de modifier une loi une fois validée. Le gouvernement de Theresa May et les conservateurs se sont défendus en arguant que ce ne serait que des retouches techniques, mais l'opposition, tant travailliste que libéral-démocrate, dénonce le texte comme étant une manœuvre du gouvernement pour récupérer du pouvoir dans le contexte tendu des négociations avec l'Union européenne.
Merci Mathias, les habitudes, mais Mathias est parti en Grèce. Merci beaucoup Pierre pour ton journal. Et on continue tout de suite sur notre volet politique avec la revue de presse de Marie qui, elle, est restée fidèle à notre antenne. Bonjour Marie.
Bonjour Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors j'imagine qu'on la commence forcément avec les manifestations de ce mardi 12 septembre, Marie.
Et tu imagines très bien, Rémi. Les quotidiens français ont fait leur une sur les grèves et mobilisations qui ont eu lieu un peu partout en France aujourd'hui. Enfin, avec un angle d'attaque un peu curieux, toujours en se mettant du point de vue de Macron et jamais de celui de la rue. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec des photos de Jupiter partout ce matin. Le Figaro titrait « Loi travail, l'épreuve du feu ». Chez Libération, c'est plutôt « Face à la rue, sur fond noir sobre ». Un tout petit, mais alors vraiment tout petit, « Loi travail, premier test social pour le gouvernement sur la couverture du Monde ». Premier test pour Macron, au Progrès. Ah mais c'est bien, hein, si les contestations sociales sont juste des petits tests de résistance pour le gouvernement. Dans l'édito de La Croix ce matin, Guillaume Goubert parle du panache de Macron face aux divisions de ses opposants. C'est oublié un peu vite déjà que le gouvernement a négocié tout l'été pour que Force ouvrière et la CFDT ne descendent pas dans la rue. En fait, il faut vraiment aller chercher du côté de l'humanité sans surprise pour trouver enfin une une digne de ce nom. Loi travail, le temps de la riposte, avec des vraies photos de vrais travailleurs et de vraies travailleuses. Si, si, je vous jure.
Bon alors Marie, là c'est le grand moment de la rentrée là. On attendait tout ça, on était triste pendant l'été, on n'a pas eu ton avis sur le Figaro, vas-y, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Ah, le Figaro, vous connaissez tous mon très très grand attachement au journal de Serge Dassault autour de cette table. Eh bien, ils nous ont pondu un édito aux petits oignons ce matin, vous allez voir, c'est signé Gaëtan Capel et ça fond dans la bouche. D'abord, il concède que Macron n'aurait pas dû parler de fainéants. Ok, ça c'était pas bien. Mais bon, les fainéants, d'abord, ils sont divisés. Et puis, ils racontent n'importe quoi. L'édito s'intitule quand même « Les balivernes de la CGT ». Et notre éditorialiste de déclarer, je cite, « On cherche en vain dans ce projet plutôt équilibré et fort éloigné des standards anglo-saxons, ce qui va précariser les salariés. » Précariser, ah je sais pas moi, peut-être l'allongement de la durée maximale des CDD, peut-être l'introduction du CDI de projet dans notre monde du travail, peut-être le nouveau plafonnement des indemnités prud'homales, ce genre de choses. Mais tout l'édito se poursuit comme ça. La France ne deviendra pas une jungle sociale, et puis on est le seul pays qui supporte un chômage de masse structurel, et puis c'est la faute de la méchante réglementation si les patrons n'embauchent pas. Et contre ça, il faut réformer notre code du travail, il faut, oui, oui, il ose le mot, il faut le flexibiliser. J'applaudis, mais nous n'en attendions pas moins du Figaro.
D'ailleurs, cet édito t'a fait penser à autre chose, Marie.
Oui, Rémi, je vous invite à feuilleter le numéro de Libé. Alors, non pas celui d'aujourd'hui, mais celui d'hier. On y trouve un dossier sur la loi travail et notamment une petite fiction où on imagine la vie de Dominique, fraiseur dans une PME de la filière automobile, dont la vie est quand même bien chamboulée par le nouveau code du travail. Et ce qui est vrai pour Dominique, manifestement un homme blanc, eh ben ça le sera sans doute encore plus pour tous les travailleurs précaires en France, c'est-à-dire les pauvres, les femmes, les personnes racisées, etc. Donc je vous recommande la lecture de ce papier, il est intéressant, et puis j'aime bien l'écriture fictionnelle dans la presse, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas si courant et qui donne des textes assez riches en fait. Bon, et puisqu'on parle du numéro de Libération d'hier, j'en profite pour caser autre chose. Vous y trouverez aussi un article sur la mémoire LGBT. Alors, je conteste tout de suite le titre de l'article. La mémoire gay peine à se regrouper. Gay, ça désigne une certaine frange de la communauté LGBTQI. En gros, les homosexuels de genre masculin. Donc, ce serait bien si on ne faisait pas des gros raccourcis de ce genre. À part ça, l'article montre comment le projet d'un fonds LGBT+ peine à se constituer. Delanoë puis Hidalgo l'ont promis à Paris, mais ça n'est toujours pas à l'agenda politique. Du coup, les centres d'archives privés, donc liés à la mémoire LGBT, se multiplient. Et la journaliste pose aussi la question, veut-on faire un centre autour de la mémoire des LGBT+ et du sida, sur le modèle par exemple du mémorial de la Shoah, ou est-ce qu'au contraire on veut un centre de documentation scientifique pour les chercheurs et les chercheuses en queer studies ? Actuellement, la question n'est pas du tout tranchée.
Et on revient à la presse de ce matin, si tu veux bien. J'ai cru voir passer les mots qu'on adore. Compétitivité, accélérateur de développement des territoires et tout ce qui va avec.
Tout à fait, c'était dans les colonnes de La Croix, avec l'article « Les promesses des Jeux Olympiques de 2024 pour la Seine-Saint-Denis ». Parce que c'est bien le 9-3 qui devrait accueillir la plupart des nouveaux équipements prévus pour les Jeux Olympiques, dont le village olympique, le centre nautique, le centre des médias. Alors, outre les infrastructures sportives, le plan prévoit 4 nouvelles lignes de métro et 2 gares, et tout ça pour dans 7 ans. Ah, et ça, ils ont sacrément confiance, les élus de Seine-Saint-Denis. Ça va créer des emplois dans le bâtiment, ça va faire des logements supplémentaires, ça va faire des piscines pour les scolaires, ça va changer l'image du département, et puis le sport, c'est un facteur d'intégration, etc., etc. Je ne vous cache pas mon grand scepticisme face au gouffre financier et à la plaie écologique que représentent des Jeux Olympiques, et ce n'est pas la construction de 2-3 écoquartiers qui va y changer quelque chose. Et ce sera tout pour ma revue de presse du 12 septembre.
Merci beaucoup Marie pour ta revue de presse pile à l'heure, quel professionnalisme. Malgré tes emportements sur le Figaro, nous sommes toujours parfaitement dans les temps, alors moi je me tais et je te laisse la place Robin pour ton billet économique. Bonsoir Robin.
Bonsoir et comme comme l'année dernière, j'arrive avec un chiffre, c'est 290 milliards de dollars. C'est ce que coûteraient en cumulé les ouragans Irma et Harvey aux États-Unis. Alors, je vous le cache pas, il y a quelque chose d'assez inconfortable à chiffrer ainsi ce qui est en fait des tragédies individuelles, des destructions matérielles et aussi des vies détruites. Les estimations que je donne ici comptent non seulement les dégâts directs, mais aussi les conséquences à suivre, c'est-à-dire tous les emplois détruits par la fermeture des usines et des raffineries de Houston, les destructions des orangeries de Floride et les coûts sur les matières premières que ça va engendrer. Il faut prendre en effet en compte les conséquences à moyen et à long terme. Prenons le cas de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où notre président est en voyage actuellement. On chiffre les dégâts à 1,2 milliard d'euros, mais ça représente seulement ce que les assurances vont payer pour les destructions matérielles, pour les hôtels qui ne sont plus habitables. Mais il faut aussi prendre en compte la perte d'emploi pour les femmes de ménage qui y travaillaient, et puis la perte de revenus pour les vendeurs ambulants sur la plage qui voient disparaître tous les touristes.
C'est vrai que ces chiffres ont tendance à résumer, voire à camoufler des réalités complexes, et pourtant, toi, tu nous les donnes.
Oui, mais c'est qu'un économiste vous dirait que c'est naturel de parler en chiffres, surtout en chiffres monétaires, c'est parce que la monnaie est commensurable. La monnaie est une unité de mesure, elle permet de mesurer la valeur et donc de comparer en termes précis deux objets différents en termes de ce que ça nous apporte en bien-être. Mais ici, je pense que la commensurabilité est seulement un outil. La vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on cherche à mesurer ces catastrophes. Quel est le but? Quelle est la motivation?
Et c'est probablement pour se rendre compte de ce que devrait être l'effort de reconstruction, qu'on les quantifie comme ça.
Il n'y a jamais d'effort pour la reproduction, Rémi. Non, mais je pense que c'est pour la reconstruction. Mais on dit par exemple qu'Irma et Harvey coûtent 290 milliards aux États-Unis. On ne dit pas Irma va coûter tant à telle personne, alors que concrètement, c'est ce qui se passe. Actuellement, ce sont des individus concrets qui souffrent, à Saint-Martin par exemple, et ce sont des véritables individus bien plus que la France comme entité abstraite. J'ai l'impression qu'avec ce genre d'événements, ce genre de risques, comme on les appelle dans les sciences sociales, on vit ça comme un risque partagé, voire même comme un risque public. J'y pense parce que l'économiste Stiglitz, assez célèbre, a publié un billet il y a quelques jours à la suite de l'ouragan Harvey. Il y dénonçait la manière dont l'administration Trump gérait ce genre de catastrophe climatique. Alors, a priori, j'ai quelques réticences à ce qu'on utilise des tragédies comme ça, comme tremplin politique, mais il y avait quelque chose de vrai dans ce billet. Stiglitz notait que les victimes d'Harvey se tournaient intuitivement vers l'État pour leur venir en secours. Alors même que, ironiquement, toutes ces victimes venaient du Texas, là où il y a le plus de défenseurs de Trump, le plus de climato-sceptiques et le plus de défenseurs d'un État faible avec peu de pouvoir d'intervention.
Oui, l'État, on l'aime quand on en a besoin, c'est ça?
Oui, il y a l'idée naturelle en fait aussi, je pense, que les victimes n'ont pas à payer toutes seules les conséquences de la catastrophe. Elles ne peuvent pas et elles ne devraient pas. En termes économiques, on dit que le risque doit être mutualisé. Alors c'est un truc de gauche, c'est un truc pour les défenseurs d'une intervention publique, pas seulement. Les libéraux vous diront qu'on n'a pas besoin d'État pour ça. C'est le principe même de l'assurance, y compris privée. Quand on s'assure, on paie pour... on paie quand on nous arrive rien pour être remboursé quand il nous arrive quelque chose. C'est un risque mutualisé.
Et quitte à mutualiser le risque, on peut aussi le répartir différemment sur les personnes.
Oui, a priori, le marché de l'assurance permet aussi de redistribuer le risque pour qu'il pèse sur des personnes qui peuvent, voire qui veulent le soutenir. Par exemple, ces dernières années, s'est développé ce qu'on appelle le marché de la réassurance. Notamment de la réassurance aux catastrophes naturelles. En fait, il s'agit d'actions, de titres émis par des compagnies d'assurance, des titres qui peuvent être achetés par n'importe qui, c'est-à-dire par des traders, et leur possession est rémunérée en pourcentage chaque mois de la valeur achetée. Le seul problème pour le trader, c'est qu'en cas de catastrophe naturelle, il perd ce qu'on appelle son principal, c'est-à-dire la valeur qu'il a achetée à la base.
Donc tu es en train de nous dire qu'Irma et Harvey sont en train de ruiner les traders?
En quelque sorte, oui. Mais ça, ce serait dans une représentation idéalisée des marchés. Désolé, Rémi. En réalité, les assurances ne sont pas très bien déployées dans les zones sinistrées par Irma et Harvey. Ce sont des risques aussi qui sont mal couverts, notamment aux États-Unis, dont les assurances couvrent rarement les inondations. Et donc, quand l'assurance dysfonctionne, comme on le voit aujourd'hui, c'est l'assistance qui doit prendre le relais. L'assistance, on la définit comme un effort d'aide aux sinistrés sans préméditation et sans contrepartie, contrairement à l'assurance. C'est-à-dire, ce n'est pas un risque mutualisé, mais une aide altruiste. Donc intuitivement, l'assistance est publique, mais elle vient aussi des ONG comme la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières qui sont présents depuis le début suite à ces ouragans. Et donc ça nous fait bien penser que ces chiffrages amènent à voir le risque comme mutualisé et aussi comme une responsabilité morale collective pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu.
Merci beaucoup Robin pour ton billet éco, je n'aurais jamais dû parler de retard tout à l'heure, voilà que nous en avons pris.
Désolé.
C'est pas grave, nous passons donc tout de suite au volet culturel de cette émission et la première des cultures c'est bien sûr la science. Bonsoir Baptiste.
Air-conditioned bunker where the Norwegians have stored heritage.
Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Bonjour ou rebonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cet édito scientifique en direct de Descartes. Pour commencer, je souhaitais avoir une pensée pour toutes les victimes des ouragans qui sont en train de frapper de plein fouet l'Amérique du Nord. Même s'il est impossible de le prouver, l'amplification de la puissance des cyclones se formant dans l'Atlantique Nord est sans doute reliée au récent réchauffement climatique. Cela étant dit, nous pouvons passer au sujet principal de cet édito. Il y a une semaine, une équipe de chercheurs a publié un article plutôt polémique dans le journal PNAS. En effet, l'article est intitulé « Identification d'individus à partir de prédictions de traits en utilisant des données de séquençage complet de génome ». En clair, en utilisant seulement des données ADN, des chercheurs ont mis au point un ensemble de techniques permettant de prédire les caractéristiques physiques, permettant de dresser un portrait robot de l'individu auquel appartenait cet ADN. Pour cela, les auteurs ont commencé par séquencer le génome de plus de 1000 personnes, comportant plusieurs ethnies et plusieurs classes d'âge.
Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous rappeler ce que c'est le génome ?
Bien sûr. Alors, le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique codé dans l'ADN. Cela englobe bien sûr tous nos gènes, mais également toutes les séquences ADN qui ne sont pas des gènes. Les auteurs ont ensuite cherché quelles particularités dans l'ADN de ces individus étaient associées à certains traits comme la taille des fossettes, la hauteur de la voix ou encore la taille. Ensuite, grâce à des outils statistiques, ces associations ont ensuite été utilisées pour faire des prédictions du physique d'une personne rien qu'en regardant son ADN. Ces prédictions ont ensuite été testées. À partir d'un génome tiré au sort, les scientifiques sont capables, dans une majorité des cas, de retrouver quel individu avait donné son ADN parmi un groupe de 10 personnes. Les auteurs ont conclu leur article en signalant que ces découvertes allaient soulever de nombreux problèmes éthiques, notamment dans les affaires juridiques ou d'autres affaires de confidentialité, puisque l'on pourrait deviner à quoi vous ressemblez rien qu'en analysant votre ADN.
Ouais, c'est plutôt effrayant tout ça, non ?
Oui, un peu. Cependant, ne vous inquiétez pas, puisque très rapidement, cet article a été vigoureusement critiqué. En effet, un bioinformaticien new-yorkais a démontré qu'il obtenait des résultats similaires pour identifier le bon individu parmi les 10, rien qu'en sachant son âge, son sexe et son ethnicité. De fait, il n'y aurait aucun besoin de connaître le génome entier pour réaliser ce travail de prédiction. Les auteurs de l'article original étaient pourtant au courant de ce problème, puisque leur travail avait été refusé par le journal Science, qui n'avait pas été convaincu par la capacité de prédiction de ce nouvel outil. Est-ce que pour autant cet article est bon à acheter ? Eh bien non. Par exemple, l'outil de prédiction de l'âge s'avère relativement ingénieux et efficace. Pour prédire l'âge d'un individu, les scientifiques ont étudié la longueur des télomères. C'est le nom que l'on donne aux extrémités des chromosomes. À chaque fois qu'une cellule se divise, son ADN est dupliqué, mais la machinerie de duplication est incapable de copier les dernières séquences au bout de l'ADN et les télomères se raccourcissent. En gros, retenez qu'à chaque division, on perd un bout de télomère. De ce fait, il est possible de prédire l'âge d'un individu. Par exemple, de courts télomères sont associés à de nombreuses divisions cellulaires et donc à un individu âgé.
Du coup, si j'ai bien compris, de longs télomères corrèlent avec un individu plutôt jeune.
Exactement. Par ailleurs, ces télomères sont connus depuis très longtemps par les biologistes. Par exemple, il a été démontré qu'ils comportaient de très nombreuses séquences d'ADN qui n'étaient pas des gènes. De ce fait, des télomères raccourcis ne causent pas de perte immédiate de gènes essentiels. En revanche, avec un âge très avancé, les télomères sont réduits au maximum et les gènes situés aux extrémités des chromosomes commencent à être perdus. Ce phénomène limite notre expérience de vie, puisque nos gènes sont forcément détruits après un certain nombre de divisions cellulaires. Rassurez-vous, il existe cependant une protéine appelée télomérase, présente dans certaines de nos cellules et qui a pour but de restaurer nos télomères. L'identification de cette protéine a d'ailleurs été récompensée par le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 2009. Bref, revenons à notre article remis en question par un scientifique new-yorkais. Suite à ces critiques, les auteurs de l'article ont déclaré que leur travail pourrait être amélioré s'ils disposaient d'une plus grande base de données, c'est-à-dire s'ils pouvaient séquencer encore plus d'individus. Cette démarche peut sembler louable, mais ces scientifiques travaillent en fait pour une organisation à but lucratif, ayant pour but d'avoir l'exclusivité de la plus grande base de données du monde. Quoi qu'il en soit, les problèmes éthiques soulevés par cet article seront sans doute de nouveau à poser dans quelques années, et il faudra certainement inventer de nouvelles lois afin de contrôler la création de portraits robots à partir d'une simple séquence d'ADN.
Merci beaucoup Baptiste pour ton édito scientifique, et je donne maintenant la parole à Clémence et Eva pour le Journal de la Culture. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Rémi.
Les potters, les rabelles, les berlioz, les bons passants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans le Journal de la Culture de ce mardi 12 septembre. Que vous soyez fraîchement revenus de vacances ou tout nouveau sur Lyon, sachez que vous ne serez pas en reste et trouverez dans votre ville d'adoption bien des distractions.
Pour nos irréductibles parisiens, à qui la perspective de passer quelques jours loin des dorures de la comédie française donne des boutons, pas d'inquiétude, les trois cinémas Gaumont-Pathé de Lyon proposent 14 dates pour revivre le grandiose Cyrano, mis en scène par Denis Podalydès cet été. Du 4 septembre au 9 octobre, retrouvez cette pièce incontournable du théâtre français et laissez-vous séduire par la verve du grand Cyrano, amoureux fou d'une femme qu'il pousse pourtant dans les bras d'un autre. Représentant bouleversant de la dignité et de la poésie humaine, ce personnage au panache légendaire est remarquablement mis en valeur par la mise en scène riche et originale de Denis Podalydès.
À ne pas manquer également l'incontournable Festival Lumière, dont Rémi vous a bien évidemment déjà parlé, et dont la 18e édition aura lieu entre le 14 et le 22 octobre. En cette arrière-saison pluvieuse, vous pouvez sans hésiter réserver votre semaine au plaisir cinéphile. Si vous ne la connaissez pas encore, la recette du Festival Lumière est la suivante. Tout commence lors de la soirée d'ouverture, le samedi 14 octobre à 17h, juste à côté à la Halle Tony Garnier, avec la projection d'un film dont le titre n'a pas encore été dévoilé. Après quoi, vous traverserez une semaine riche en projections, 180 films en tout pour 400 séances dans tout le Grand Lyon, mais également des masterclass d'artistes en compagnie de grands noms tels que cette année Tilda Swinton, Diane Curis, Anna Karina, William Friedkin et Jean-François Stévenin. Mais vous aurez également le plaisir d'assister, si vous n'oubliez pas de prendre vos places, à la remise du prix Lumière le 20 octobre au Centre des Congrès, qui sera attribué cette année à Wong Kar-wai. Mais c'est également toute la culture ciné qui est mise à l'honneur avec des expositions de photos et d'affiches à l'Institut Lumière, une ciné-brocante les samedis 21 et dimanche 22, où vous pourrez acheter ou échanger des appareils photo, caméras et toutes sortes de matériel de projection. Dernier fait notable, cette année, un comité de cinéastes invités tournera un remake du premier film de l'histoire du cinéma, que vous connaissez peut-être, et qui n'est autre que Sortie d'usine, cette captation qui montrait, en cadrage fixe et sans plan de coupe, la sortie du travail du personnel ouvrier et des cadres de l'usine Lumière.
Le 20 septembre, ne ratez pas non plus une rencontre exceptionnelle au Chartreux avec le célèbre auteur américain Don DeLillo, à l'occasion de la parution très médiatisée de son nouveau roman Zero K aux éditions Actes Sud. Entre noirceur et splendeur, ce roman d'anticipation nous transporte dans les coulisses d'un centre de recherche secret qui propose d'augmenter l'humanité ou de donner la mort. D'une rare profondeur philosophique, le texte de Don DeLillo reconduit l'impossible dialectique entre finitude humaine et mirage de l'immortalité. La rencontre avec l'auteur sera suivie d'une lecture de son texte par le comédien Thomas Rortet.
Le samedi 23 septembre, c'est à l'Auditorium de Lyon que nous vous emmenons pour le concert d'ouverture de la saison. C'est un florilège de musique française que vous pourrez y entendre pendant plus d'1h40, en compagnie d'un orchestre qui, sous la direction de Léonard Slatkin, vous fera redécouvrir une partie du répertoire de Connaisson, Debussy, Saint-Saëns et Ravel. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Guillaume Connaisson, il s'agit d'un compositeur associé de l'Auditorium Orchestre National de Lyon, dont l'œuvre s'inspire de celle de l'écrivain Abraham Merritt, l'un des pionniers de la littérature fantasy. C'est cet imaginaire débordant et féerique que retranscrit Guillaume Connaisson dans son interprétation musicale de The Ship of Ishtar. et qui nous fait découvrir l'artefact d'un merveilleux navire qui nous fera voguer ensuite sur la mer de Debussy avant de nous livrer au violoncelle de Sol Gavetta dans le premier concerto pour violoncelle de Saint-Saëns et à la valse de Ravel.
Du 15 au 29 septembre, rendez-vous aux Subsistances, dans le premier arrondissement lyonnais, pour une exposition de photos délirantes intitulée Free Fall, imaginée par le chorégraphe Jiří Kilian. L'artiste tchèque démultiplie le visage de sa femme à travers une vingtaine de portraits disséminés dans l'espace, un visage saisi de toutes les manières possibles, tantôt fermé ou grimaçant, reflétant l'éternel mystère de l'âme humaine. L'exposition mettra d'accord les amateurs de photographie, de musique et de danse, puisqu'elle est à parcourir au son des fugues de Bach et construite comme un ballet, avec ses émotions et sa propre gestuelle, dans un temps suspendu entre rêve et réalité. Enfin, du 21 septembre au 1er octobre, n'hésitez pas à vous rendre au TNP, où le metteur en scène Gilles Pastor adapte de manière très personnelle le film Œdipe Roi de Pasolini, sorti en 1967. Pasolini avait fait du personnage mythologique d'Œdipe son double autobiographique, lui permettant d'évoquer sa petite enfance, son intimité familiale, son univers mystique. Voyage à travers le temps, mais aussi à travers l'espace, puisque si la pièce originale de Sophocle se déroulait à Thèbes et le film de Pasolini en Italie, la mise en scène de Gilles Pastor nous emmène à Salvador de Bahia pour une quête onirique et spirituelle prometteuse.
Et c'est sur les journées du patrimoine que nous terminons ce journal de la culture. Elles auront lieu ce week-end et ont pour thème cette année « Métropole au fil de l'eau ». Mais si, comme nous, vous êtes pris de panique chaque année devant le foisonnement de possibilités et de lieux à visiter, et surtout devant les 64 pages du programme, on vous propose un petit top 3 de notre crue. D'abord, une petite balade d'une heure en péniche pour observer avec une curiosité et une admiration enfantine les docks et le port de Lyon, entre l'écoquartier de Confluence, à la réhabilitation duquel sont associés les noms de Jacob et Marc Farlane, Wilmotte et associé Odile Deck ou encore Rudy Ricciotti, le port, bien sûr, qui approvisionne toute la métropole. Bref, amis géographes, vous vous laisserez certainement bien tenter. Si vous avez l'âme un peu plus romantique ou si vous êtes plus féru d'histoire, du moins, pourquoi ne pas plutôt aller à la Tête d'Or, au Terreau, à Cordelier ou encore Place des Jacobins pour entendre raconter l'histoire des fontaines de la ville? Et dans la même veine, pourquoi ne pas également vous lancer dans la visite des lieux rendant hommage à des femmes qui ont marqué leur époque en allant découvrir, au cours d'une explication d'une heure, l'identité des Lyonnaises qui se cachent dans la fresque des Lyonnais rue de la Martinière? Troisième possibilité, si la thématique au fil de l'eau ou les explications trop longues ne vous tentent pas, pourquoi ne pas vous lancer dans une visite en 30 minutes des caves de Bahadourian, bazar à l'Oriental construit en 1928, où l'on retrouve aujourd'hui encore un grand nombre de produits de la Méditerranée. Enfin, notons que cette année, et c'est la première fois, donc on le souligne, la métropole organise une visite du Vieux Lyon pour les personnes en situation de handicap auditif, moteur, visuel et ou mental sur réservation. Et c'est sur cela que nous vous souhaitons un bon mois de septembre rempli, on l'espère, de culture.
Merci beaucoup Clémence et Eva pour votre journal de la culture. Eva s'est déjà enfuie du plateau. On termine ce volet culturel avec une dernière chronique. Et puis la culture à la radio, eh bien c'est aussi tout simplement la radio. C'est donc parti pour Onde Courte.
Onde courte.
C'est la rentrée sur Transistor, on vous le répète depuis 2 heures, mais c'est aussi la rentrée chez nos concurrents de Radio France qui présentaient il y a quelques jours leur nouvelle grille dans la traditionnelle conférence de presse de rentrée. Conférence que, dans ma grande conscience professionnelle, je me suis farci en quasi-intégralité avec, en prime, les blagues inaugurales du président Mathieu Gallet.
Donc Radio France n'est plus en vacances, ça vous l'avez vu. Radio France n'est pas encore en grève et Radio France est bien en mouvement.
Bon, pour la grève, il aura suffi d'attendre jeudi dernier un premier mouvement social sur les antennes de France Culture et France Inter, dommage. Pour ce qui est d'être une radio en mouvement, cette conférence de rentrée témoigne en effet d'une agitation qui tiendrait presque de la gesticulation. Des gesticulations qui tournent autour d'un maître mot, le média global. On se gargarise de la naissance de France Info, bien sûr, mais on prépare également le rapprochement de France Culture avec France Télévisions sans l'avouer trop ouvertement, et puis on finit par avoir l'impression que France Musique et FIP ne sont plus qu'un site internet. Puis bon, l'événement de cette rentrée, c'est le lancement de Un Monde de Radio France, la plateforme globale du média global, le contenu des 7 chaînes personnalisées et personnalisables, tout au même endroit, assurément le média du Turfu. Si on ajoute à ça les podcasts natifs de France Culture et l'interactivité des émissions via les réseaux sociaux, on trouve du numérique partout, 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 et on se demanderait presque, et la radio dans tout ça? Et les grilles, les programmes, les voix, bref, tout ce qui fait du bruit dans le poste. Alors, il y a bien quelques annonces hein, sur France Culture, sur France Inter par exemple, heureusement. On lance une émission sur et pour les femmes intitulée « Vous les femmes » et animée par, oui, Daniel Morin. Comme si sa chronique matinale, son billet chez Nagui et les rediffs de son billet chez Nagui ne nous suffisaient pas. Sur France Culture, Ping Pong s'arrête après une année lamentable, mais la grille reste en place, avec hélas plus de commentaires que de profondeur. Histoire de s'auto-congratuler à chaque nouveau chiffre d'audience en hausse, comme s'il s'agissait de rivaliser avec NRJ. Les matins pâtissent aussi du départ de Xavier Delaporte et Zoé Sfez, qu'on aimait beaucoup, et dont Mathilde Serrel ne sera qu'une très très pâle copie. Mais le grand déchirement de cette rentrée est presque passé sous silence. Il concerne les agrégatifs matinaux et les oiseaux de nuit qui, toute l'année dernière, étaient réveillés avec une infinie délicatesse par la voix familière d'Émilie Chaudet à 6h02 dans la nuit encore noire.
Il suffirait d'un souffle pour nous réveiller, un filet de voix, un signe de vie, même furtif, qui passerait barré d'un coup sec le moment du sommeil, comme à 6h02 sur France Culture, quand les petits matins commencent. C'est la brume d'un été qui tarde à apparaître. Il est bien là mais ne se montre pas, reste sous un voile de brouillard, tout comme ce phare qui se remarque et reste pour tous un unique point de repère, même si depuis longtemps, ce n'est plus de lui que vient la lumière de la nuit.
Imaginez-vous, il est 6h du matin, vous êtes encore au lit, cette voix vous enveloppe comme une caresse, encore adoucie par un léger tapis musical, et l'animatrice glisse à votre oreille quelques images, descriptions poétiques d'une ou deux photographies qu'elle vous laisse imaginer, comme pour vous offrir un dernier rêve avant de vous réveiller complètement. Une voix belle et douce, de la poésie, de la bonne humeur aussi, une énergie délicate et chaleureuse à l'heure où précisément on en avait besoin. Les petits matins d'Émilie Chaudet, c'était tout ça, et même s'ils n'ont duré qu'un an, ils sont sans conteste l'une des émissions marquantes de ces dernières années. Et parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, l'émission est confiée cette année à Dany Legras, brésilienne parachutée d'on ne sait où, et animatrice piteuse s'il en est, à 6h02 le matin, elle ouvre l'émission avec une revue de presse. Tant pis, on dormira un peu plus longtemps cette année. C'était le journal radiophonique amplifié, une émission coordonnée par Rémi Cerda avec aujourd'hui Pierre Lemoël, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Baptiste Gaborio, Clémence Large et Eva Chaussinan. Au lancement des jingles, c'était Céline Autin et Marie Lécuyer. Et nous remercions toute l'équipe de NS Média et les services de l'ENS Lyon pour leur soutien dans l'organisation de cet enregistrement public. L'amplifié est de retour dans 3 semaines avec une nouvelle équipe dont vous ferez bien sûr partie. Et donc à très bientôt sur les ondes de Transistor et puis pourquoi pas de l'autre côté du micro. Web.